Salut à toutes et à tous, c'est Julie, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboires ?
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond !
Résistance ! Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes lundi 9 février. Ou mardi, si vous nous écoutez en rediff, bonne matinée à vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour la première de nos 4 émissions spéciales élections municipales. Je sais que vous n'en entendez pas assez parler, mais les élections municipales sont de retour pour une saison encore plus légendaire. Et j'espère d'ailleurs que vous avez pris votre abonnement à la carte électorale. Et oui, parce qu'on ne sait pas qui arrivera au pouvoir à la présidence l'année prochaine, mais la mairie, elle pourra toujours maintenir un certain contre-pouvoir. Pas vrai Manon ?
Et oui, le maire accompagné du conseil municipal est l'organe délibérant de la commune. Il représente les habitants et habitantes et règle les affaires communales par ses délibérations, notamment en votant le budget, en décidant des travaux, de la gestion du patrimoine et de l'organisation des services municipaux. Le ou la maire gère les écoles primaires, les cantines, les équipements sportifs, la voirie, la propreté ou encore les espaces verts, et il ou elle est aussi responsable de la sécurité.
Pour vulgariser, c'est un peu le pilote de la commune. Et c'est donc à l'occasion des municipales 2026 que 3 en 1 vous prépare une série d'émissions spéciales. Tous les lundis, jusqu'au premier tour, l'équipe explore un sujet de société qui touche les Rennais et les Rennaises. Et au programme de l'émission du jour, nous allons parler qualité de l'air à Rennes. Pour cela, Manon, tu t'es entretenue avec Jacques Leletti, chargé de mission à la MCE, la Maison de la Consommation et de l'Environnement.
Exactement, et il nous a éclairé au sujet de la qualité de l'air à Rennes et sur les mesures que la municipalité pourrait prendre.
Puis, nous sommes allés interroger des habitants de différents quartiers rennais.
Oui, nous nous sommes rendus dans le quartier Joliot-Curie, dans le nord de Rennes, puis à Charles de Gaulle. Nous n'avons pas choisi ces quartiers pour rien, puisque ce sont deux quartiers bien différents et plus ou moins entourés de verdure.
Et nous allons désormais faire aussi un rapide tour d'horizon des programmes qui, on le précise, n'ont pas tous encore été publiés. Manon, en termes de qualité de l'air, quelles sont les mesures mises en avant ?
C'est assez vaste. Il y a notamment des propositions autour de la gratuité des transports en commun, de la sécurisation et de l'aménagement de nouvelles pistes cyclables, de la végétalisation et de la plantation d'arbres, ou encore du débitumage de la ville.
Merci Manon pour cette mise au point sur les municipales.
Take me on your, come and take me on your.
venez d'écouter Magic Marie de The Charladas sur Canal B. Et on retrouve maintenant Manon pour l'interview du jour avec Jacques Leletti, chargé de mission à la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Bonjour Jacques Leletti, vous êtes chargé de mission en santé et environnement à la Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes. Vous avez travaillé sur l'opération Ambassadeur portée par la ville de Rennes et la Maison de la Consommation et de l'Environnement en lien avec les autres acteurs associatifs et citoyens visant à mobiliser les habitants et habitantes sur la qualité de l'air à Rennes. Et nous vous invitons aujourd'hui dans le cadre de la première de nos 4 émissions spéciales municipales. Et aujourd'hui on s'attarde sur la question de la qualité de l'air à Rennes en faisant un état des lieux de la pollution à Rennes et comment améliorer la qualité de l'air. Dans un premier temps, on va faire le constat de la qualité de l'air à Rennes. Et puis dans un deuxième temps, on va s'attarder sur ce que peut apporter la municipalité sur la question. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, Jacques Leletti, comment on évalue la qualité de l'air à Rennes ?
Alors c'est un travail qui est réalisé par Airbraise. Donc c'est une structure qu'il y a dans chaque région de France. Elle est basée à Rennes pour la Bretagne. Et donc c'est Airbraise qui fait la mesure avec différents capteurs qui, en continu, font le suivi de la qualité de l'air à Rennes, mais aussi dans les autres grandes villes de Bretagne. Et ce suivi est donc à la même méthode à Rennes, en Bretagne et partout en France pour pouvoir comparer les différentes villes de France. Donc il y a des paramètres qui sont suivis et d'autres pas. Donc on peut dire qu'à Rennes, la qualité de l'air s'améliore ces dernières années avec un indicateur qui s'appelle l'indice ATMO, donc tous les jours, chacun peut aller voir sur le site d'Airbraise si l'indicateur est bon, moyen, mauvais.
Et est-ce que vous avez des chiffres pour évaluer aujourd'hui la qualité de l'air ?
Alors, ce qui n'est pas simple, c'est qu'il y a l'indice est général, bon, moyen, mauvais, enfin, il y a même un peu plus de classes que ça, mais il y a différents polluants. Et aujourd'hui, il peut être mauvais, par exemple, pour les particules fines, mais il peut être correct pour les oxydes d'azote liés au transport routier. Donc, ça reste un sujet vaste et complexe et que ce n'est pas simple de synthétiser, même si l'indice ATMO permet de dire qu'il y a moins de jours d'épisodes de pollution aujourd'hui que ce qu'il y avait il y a quelques années. Donc ça, cet indice-là, il s'améliore ces dernières années, globalement à Rennes, mais aussi dans les autres villes de France, globalement la qualité de l'eau. On peut dire, scientifiquement, que l'indice s'améliore un peu partout en France, dont à Rennes.
Et concrètement, comment est l'indice à Rennes ?
Il y a une nouvelle directive européenne, donc c'est du droit européen. Donc on est égaux, quelque part, à Rennes par rapport aux autres villes de France et d'Europe. Cet indicateur a changé et aussi l'Ille-et-Vilaine, c'est un peu spécifique, intègre les particules fines PM2.5 micron, donc ce que ne font pas les autres départements. Et il y a différents polluants qui ne sont pas pris en compte aussi. Nous, en tant qu'association, on interpelle sur dire quand est-ce qu'on intégrera les pesticides dans le suivi de la qualité de l'air et les alertes qui vont avec. Aujourd'hui, ce n'est pas intégré. Donc l'indice, il peut être observé chaque jour. Donc là, sur le site d'Airbraise, là, tout de suite, on peut aller voir. De mémoire, il est bon. Coup de chance. Hein. En Bretagne, quand il y a du vent et de la pluie, c'est des facteurs favorables à une bonne qualité de l'air. Donc, les régions de l'Ouest sont favorisées par rapport à d'autres régions qui ont moins de vent et moins de pluie. Donc, globalement, là, je pense qu'il doit être bon aujourd'hui. Il était bon hier. Il y a de grandes chances qu'il soit bon demain aussi. Malgré un contexte d'hiver où, d'habitude, c'est moins le cas, parce qu'à cause du chauffage au bois, on a des épisodes de particules fines bien souvent.
Donc je suis actuellement sur le site de Airbraise et au moment où nous enregistrons cette interview, donc mercredi 4 février, l'indice de qualité de l'air est moyen. Donc c'est le deuxième meilleur critère sur l'échelle du site Airbraise qui en comporte donc 6, allant de bon à extrêmement mauvais. Donc vous avez dit que la qualité de l'air elle s'est améliorée ces dernières années. Depuis à peu près combien de temps est-ce que ça s'est amélioré ?
Ça fait à peu près 20 ans qu'il y a des mesures de la qualité de l'air à Rennes et dans les autres villes. Et depuis, je crois que là, les graphiques que j'ai vus, ça fait à peu près plus de 10 ans, parce qu'ils ne remontent pas forcément beaucoup plus loin non plus, mais ça fait 10 ans que ça s'améliore sur les différents polluants, tous les polluants, hormis l'ammoniac, qui est assez stable ces dernières années. L'ammoniac est d'origine agricole, notamment lié à l'élevage sur l'Ille-et-Vilaine. Hein. C'est pas parce qu'on mesure à Rennes que la pollution vient de tout près. Des fois, elle peut venir de plusieurs kilomètres ou centaines de kilomètres aussi pour les particules fines aussi. Comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de mesure, en tout cas, il n'y a pas d'indicateur sur les pesticides. Donc, on ne peut pas vraiment dire si ça évolue favorablement, même si sur certaines molécules, ça baisse aussi. Et il y a des polluants aussi nouveaux qu'on ne mesure pas encore. Je pense aux PFAS, aux polluants éternels, qui commence à revenir dans le débat public et pour lequel aujourd'hui il n'y a quasiment pas de données.
On va désormais partir sur la deuxième partie, un peu plus sur le rôle que pourrait avoir la municipalité dans l'état de la qualité de l'air. Quelles seraient les mesures à prendre pour limiter encore plus drastiquement les effets de l'activité humaine sur la qualité de l'air ?
Alors, un des facteurs effectivement qui dégrade la qualité de l'air sur Rennes et alentour, c'est notamment la pollution routière automobile. Avec deux polluants, les particules fines, donc les poussières en fait, qui sortent de nos moteurs thermiques, et les oxydes d'azote, donc ça, là c'est un gaz lié au moteur thermique toujours. Donc une des façons de faire baisser cette pollution, c'est de faire baisser le volume de véhicules qui transitent sur le territoire. Une des difficultés pour les élus, c'est comment on fait, parce qu'on ne maîtrise pas le nombre de camions qui vont passer sur la rocade ou le nombre de voitures. Donc là, un des enjeux pour les élus locaux, c'est comment on arrive, souvent par l'aménagement du territoire, mais là on est plutôt intra-rocade, donc là de la ville de Rennes, et là la ville a la main de dire comment on peut réussir à ce qu'il y ait un transfert des automobilistes vers le métro, vers le vélo, et là où on voit ce qui a déjà été engagé, hein, c'est pas nouveau, de réussir à contraindre le déplacement voiture, souvent par des sens uniques, par une réduction de la vitesse, une réduction du stationnement, ce qui fait que les habitants se rendent compte que ça devient trop compliqué. Et du coup, on se retrouve avec un transfert et d'une voiture à un métro, par exemple. Et là, on se retrouve avec une baisse de la pollution, ce qui a été le cas. C'est pourquoi il y a une baisse de la pollution de l'air sur notre territoire. Vraisemblablement, il y a différents facteurs, mais c'est notamment par le transfert, notamment routier. Après, il y a d'autres questions sur les pesticides que j'évoquais tout à l'heure, ou sur l'ammoniac ou autre, ou le chauffage au bois. Comment on fait pour réduire ? Donc là, sur la ville, aujourd'hui, le levier, il est surtout par l'aménagement du territoire et le volet routier.
Vous parlez de contraindre, donc est-ce que ça veut dire que pour que les gens prennent conscience peut-être de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la qualité de l'air, il faut forcément les contraindre pour les pousser à utiliser d'autres manières de circuler par exemple ?
Alors je ne sais pas si c'est une contrainte, ils ont toujours leur liberté de continuer à venir en voiture, mais à un moment effectivement quand il n'y a plus de place de parking, c'est de fait, une contrainte de fait. Ça c'est un vrai débat, est-ce que c'est par la contrainte, par l'incitation, par l'accompagnement ? Il y a eu aussi, il y a toujours un travail d'accompagnement souvent qui est demandé, qui passe par des associations justement d'information, de vulgarisation. Je pense aussi au travail de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui fait du conseil sur les équipements, par exemple, pour avoir moins d'impact sur le climat ou aussi sur la qualité de l'air. Donc ça passe aussi par de l'accompagnement. Donc là, c'est des moyens humains pour que des gens ne se sentent pas tout seuls et comment on les accompagne pour changer leur mobilité, leurs outils du quotidien, pour émettre moins. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment avec, à la demande des services de l'État sur le chauffage au bois. On n'est pas sur de la contrainte, on est sur de l'information. On est présent sur certains marchés à faire de l'information sur les bonnes pratiques du chauffage au bois pour réduire la pollution en particules fines.
Quelles mesures environnementales dépendent aujourd'hui de la municipalité ?
Effectivement, les leviers sont dans les mains tantôt de l'État, des services de l'État, tantôt de la métropole, tantôt des municipalités et aussi des citoyens, parce qu'au final, c'est beaucoup les citoyens au sens large, et j'intègre les entreprises en même temps, qui contribuent à la hausse ou à la baisse des polluants. Donc effectivement, les leviers, ça va être des leviers financiers. Est-ce qu'on peut mettre de l'argent pour accompagner la transition à ce qu'on passe d'un « j'ai une cheminée » à « je passe à un insert » ou « je passe à un poêle à bois » ou une pompe à chaleur. Donc voilà, c'est comment je peux mettre en place de l'argent pour accompagner, ce que j'évoquais tout à l'heure. Acheter de nouvelles rames de métro, de trambus. Donc on voit souvent qu'il y a un enjeu financier. C'est où on trouve de l'argent ou des choix, la politique, un arbitrage. Je décide de faire des nouveaux trambus ou de faire tel ou tel aménagement qui contribue à. Donc là, il y a vraiment un choix politique. Où est-ce qu'on a l'argent ? Et ça, c'est une vraie difficulté. Et souvent les freins, il y a les leviers mais aussi les freins, c'est est-ce que les citoyens sont prêts à accepter ? On l'a vu, alors c'était moins le cas à Rennes, des zones à faible émission. La ZFE devait s'installer sur Rennes et sur d'autres villes françaises. On l'a vu sur d'autres territoires, ça a été plus compliqué. Donc comment aussi les habitants sont prêts à recevoir des contraintes là pour le coup, parce que c'était interdire des vieux diesels dans certains centres-villes. Donc il y a aussi cette question de est-ce que les citoyens sont prêts, mais avec tout l'accompagnement donc, qui doit aller avec. His name's Doom, they wonder.
Double Dutch, then turn on the mic with a thumb stroke. Subtle touch, cuddle clutch. Is this thing on like the fling with Mrs. King Kong this spring gone? Sing a song of slap happy crappiness. He came to blow like it was strapped to his nappy chest. Surely I jest. The best on a wireless mic, not an eye test. Yet I digress. But why stress? Try and remember when maybe bit the tender skinned baby Sir Gwendolyn. The type to hit and run and go tell a friend. Word to El Muerto, Cucaracha, exoskeleton. He know, flow like interstellar wind. Toe a rap gin by his toe into hell again. 1-2 check, me too. Loose wreck, see through your gooseneck EQ.
His name's Doom. They wonder just who is he, but don't worry. Believe me, he'll get busy when it comes to poetry. He's got plenty, la la la.
If I may interject, rap these days is like a pain up in the neck. Cornier and phonier than a play fight. Take two of these and don't phone me on a late night. The beat won't fail me with more rhymes than times he washes hands and feet daily. And all that kerosene ain't cheap. Villain been deep since a teenage creep peep. He always was a gentleman and kept a pen and a pencil in his mental den. Right there next to where the Rolodex was before it turned up all burnt by his solar plexus. He don't know his own strength when he's on the bonus like the microphone's length and width. Ain't it funky like dingy socks? Feel the full effect off cassette in your Benzie box.
His name's Doom. They wonder just who is he, but don't worry. Believe me, he'll get busy when it comes to poetry. He's got plenty, la la la.
C'était Benzie Box de MF Doom, vous êtes toujours sur Canal B, toujours dans 3 en 1, pour la première des 4 émissions spéciales municipales. Et pour continuer, on vous propose d'entendre certains habitants des quartiers Joliot-Curie et Charles de Gaulle. On leur a posé la question, qu'attendez-vous de la municipalité sur le sujet de la qualité de l'air à Rennes ?
Quand on a des distances relativement courtes, on doit privilégier la marche à pied, le vélo. Pour ça, il faut avoir des pistes cyclables qui soient vraiment sécurisées et non pas au bon vouloir des écarts des automobilistes. Plus il y aura de pistes cyclables performantes, et mieux ce sera. Pas seulement une bande de peinture qui sépare la rue... où il y a les voitures, des piétons ou des vélos, quoi. Il faudrait qu'il y ait vraiment des séparations.
Il y a quand même beaucoup d'espaces verts sur Rennes. Hein.
Oui, il y a Morpa, il y a le Tabor, il y a Auberture, il y a les Gailleuls.
J'ai l'impression qu'à Rennes, ça va. Enfin, je sais que par exemple, il y a les tickets de métro, je crois, quand il y a une qualité de l'air qui est trop dégradée, qui diminue par exemple. Enfin, je pense qu'il y a des mesures qui pourraient être liées à ça, comme par exemple de mettre les transports gratuits le week-end, au moins.
Je pense que les problèmes de pollution ne sont pas que du ressort de la responsabilité de la municipalité, mais plutôt du contexte de production des entreprises, des multinationales, aussi de l'utilisation de moyens de transport. Mais moi, je ne compte pas du tout sur la municipalité pour faire évoluer... la situation, c'est systémique, la population l'air, c'est-à-dire que ça dépend des entreprises, ça dépend aussi des politiques gouvernementales, mais avec des décisions prises beaucoup plus haut, quoi, c'est-à-dire de par les ministères, qui dépendent aussi des lobbyings, qui dépendent des entreprises. Et du coup, par exemple, si on parle des petites actions, genre d'avertissement, de prévention sur la pollution de l'air, que la municipalité elle pourrait faire, pour moi, c'est clair que c'est pas efficace.
Et on retrouve Manon et Jacques Leletti pour la deuxième partie de cette interview au sujet de la qualité de l'air à Rennes.
Quel est le bilan du dernier mandat de la municipalité sur le sujet de la qualité de l'air ? Comment est-ce que ça a évolué les dernières années ? Et est-ce qu'il y a des points précis sur lesquels ça s'est amélioré ou au contraire moins amélioré ou ça aurait pu plus s'améliorer par exemple ?
Alors, ce qu'on a vu, c'est de la part de la collectivité, c'est une volonté d'embarquer les citoyens et de les accompagner. Donc, comme l'enjeu qualité de l'air à Rennes est moins fort que sur d'autres territoires urbains, je pense à Grenoble, où il y avait une marge de... La contrainte était moins forte. On n'est pas en contentieux avec le droit européen. Du coup, on n'a pas le couteau sous la gorge pour agir. Pour autant, on aurait pu dire que ce n'est pas un problème, donc on n'en fait pas trop. Ça aurait pu être un choix et qui aurait pu s'entendre. Pour autant, on a quand même vu, nous, ce qu'on a vu, c'est la volonté de la collectivité de mettre en place l'opération ambassadaire, d'embarquer les citoyens à ce qu'ils mesurent la qualité de l'air chez eux, dans leur rue, dans leur déplacement. Avec l'État, là, de mettre en place des opérations que j'évoquais tout à l'heure sur le chauffage au bois, sur les marchés. Alors là, c'est à l'échelle de la métropole, parce que c'est souvent la métropole aussi qui a la compétence, même si là, c'est un projet des services de l'État. En tout cas, c'est l'État qui porte le plan de protection de l'air. Mais à chaque fois, on voit la volonté aussi de connaissance. Il y a un capteur de pesticides au Tabord qui suit les pesticides. Il n'y avait pas d'obligation de le faire. Et là, c'est la mairie et la métropole qui ont voulu le faire. Donc, il y a une vraie volonté et un engagement de connaissance. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais d'anticiper avec des études, de la connaissance, de la mobilisation citoyenne. Donc, le bilan, il est intéressant sur l'anticipation, je vais dire comme ça.
Quelles sont les solutions concrètes à la portée de la mairie de Rennes? Est-ce que, par exemple, planter plus d'arbres, offrir plus d'espaces verts aux Rennais et Rennaises pourrait permettre une baisse de la pollution et moins de pics de pollution dans la ville?
Là, on est plus sur une solution intéressante sur la question du changement climatique et comment nous, habitants de la ville, on va encaisser, et on le voit déjà malheureusement, les vagues de chaleur qu'on a lors des étés, qui sont de plus en plus chauds, comme tout le monde a pu le constater. Effectivement, la végétalisation joue un bon rôle sur le fait qu'on le vive mieux et que la ville ne se réchauffe pas plus. Pour autant, ça n'apporte pas un bénéfice qualité de l'air très important. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'enjeu pour la qualité de l'air, c'est vraiment de faire baisser les sources. Et les sources, c'est surtout le transport de véhicules routiers. Donc l'enjeu, c'est comment on arrive à faire baisser le trafic, alors qu'on n'a pas forcément la main, comme j'évoquais. Les camions, ils passent, ils viennent de la Bretagne pour aller à Rungis. Il faut bien qu'ils passent par la rocade. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour ça. La solution de la végétalisation, elle n'apporte pas de bénéfice ou faiblement sur la qualité de l'air, même s'il y a quand même un petit rôle de filtre, finalement. C'est-à-dire que la poussière d'une rocade, par exemple, ou d'un grand boulevard, elle peut être stoppée par du végétal. Donc, à ce titre-là, ça a un effet barrière. C'est toujours bénéfique, mais ça ne suffira pas. C'est sur d'autres leviers qu'il faut jouer pour faire baisser la pollution de l'air.
Nous avons interrogé des Rennais et Rennaises pour connaître leurs préoccupations en termes de qualité de l'air à Rennes. On nous a principalement parlé transport en commun et mobilité douce. Par exemple, on nous a parlé des pistes cyclables qui sont parfois dangereuses et mal agencées pour les cyclistes et notamment pour les enfants. Les Rennais et Rennaises que nous avons interrogés ont relevé le fait qu'il y a beaucoup de transports en commun à Rennes avec des tarifs réduits lors des pics de pollution, mais certains ont souligné quelques pistes d'amélioration comme notamment la gratuité des transports en commun le week-end. C'est le cas à Nantes, par exemple. Encourager encore plus l'utilisation des transports en commun en les rendant gratuits le week-end, est-ce que ça peut être un levier que pourrait utiliser la municipalité comme piste d'amélioration?
Tout à fait. Le tarif, c'est un levier. Le fait de savoir que les week-ends, c'est gratuit, ça peut être le fait d'y aller plus facilement, ça peut être moins de contraintes. Ou à l'inverse, on peut aussi souhaiter ce qu'on parle de rue scolaire. C'est une solution assez nouvelle qu'on a vue il y a 2-3 années, de dire à l'heure d'arrivée des élèves, que ce soit des écoles primaires ou pourquoi pas même un collège, de dire plutôt que de voir arriver... Alors, je ne sais pas si c'est forcément le cas à Rennes, mais qu'il y ait des parents qui amènent leurs élèves, leurs enfants jusque devant l'école, vraiment un accompagnement et un aménagement qui le permettent d'y aller en sécurité à pied, en vélo, sur une durée, c'est juste à l'arrivée à l'école, de dire on incite à ce que, et on barre la rue pour que le transport se fasse à pied, à vélo. Voilà des petites solutions techniques qui permettent l'incitation et la redécouverte de finalement marcher, c'est bien, ça nous permet de rester en forme, pareil pour le vélo. Donc voilà des solutions qui peuvent permettre d'inciter à la bascule du beaucoup de voitures à moins de voitures.
Donc les décisions de protection environnementale dont on entend le plus parler, elles se font principalement à l'échelle nationale, européenne, voire parfois international. Est-ce que avoir une politique environnementale à l'échelle locale stricte à ce sujet pourrait avoir un impact concret rapidement ?
Il y a un tout, effectivement, entre le droit européen que j'évoquais tout à l'heure et les solutions, ce qui est normal. Chaque maire se dit qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, et c'est normal. Les habitants, souvent, c'est vers le maire, qui peuvent interpeller et dont ils attendent des solutions d'aménagement. Donc effectivement, chacun a un rôle à jouer, dont les maires, sur les leviers qu'ils ont. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ça qui n'est pas forcément simple, c'est que les compétences, parfois, sont passées à un autre niveau. C'est-à-dire que les maires peuvent logiquement dire « Ah, sur le transport, c'est la métropole qui a la compétence pour créer un trambus, pour créer tel ou tel aménagement. Il faut que j'aille convaincre tous les maires à côté. » Donc ça, ce n'est pas forcément simple, je pense, pour les habitants, de comprendre les différents niveaux où il y a les compétences réglementaires et que le maire n'a pas tous les pouvoirs. Donc c'est un pouvoir partagé, qu'il faut convaincre aussi les collègues. Pour autant, il y a des solutions où chaque maire peut tenter de faire des choses. Je pense à l'aménagement très local, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'aménagement d'une rue, d'une place. Là, plus facilement, les maires ont la compétence, même si sur la métropole, il y a un plan local d'urbanisme intercommunal. Donc là encore, il faut se mettre d'accord à plusieurs. N'empêche, on peut plus facilement convaincre de dire « Non, là, j'ai intérêt à végétaliser telle rue ou telle place. » Donc là, il y a une possibilité d'agir. Et je pense que c'est légitime que élus et citoyens avancent et qu'on avance plus vite, parce qu'il y a un vrai enjeu sur la question climatique. L'enjeu est moins fort, j'ai tendance à dire, sur la qualité de l'air, mais n'empêche que sur l'urgence climatique, il y a une urgence à réaménager nos rues, et pas que dans le centre-ville, et pas que à Rennes. Donc là, il y a encore un gros travail de, je pense, d'aménagement de l'espace public.
Finalement, en une phrase, est-ce que l'état de la pollution et de la qualité de l'air à Rennes doit être l'une des priorités de la municipalité pour le prochain mandat ?
C'est un des sujets, parmi les autres, sur les enjeux environnementaux. D'abord parce que c'est un enjeu de santé publique, et aujourd'hui c'est délicat de dire ça importe peu pour moi en tant qu'élu, parce qu'il y a un vrai enjeu de santé publique. Comme je l'ai indiqué, par exemple, il y a aussi un enjeu de santé publique via l'impact du changement climatique et notamment des étés et des vagues de chaleur qu'on a. D'enjeux sur l'eau, dont il y a un gros débat en ce moment sur le Sage-Vilaine, dont on voit que c'est tendu. Et c'est tendu parce que je pense que tout le monde a pris conscience que la quantité d'eau qu'on a sur notre territoire peut être réduite, notamment l'été, alors qu'on a des besoins élevés pour tous les usages divers et variés. Donc on voit qu'il y a au moins ces sujets-là. Et en tant qu'association environnementale et représentant d'autres associations environnementales, il y a l'enjeu biodiversité dont on ne peut pas ne pas parler, puisque l'effondrement du vivant est une réalité. Même si là encore ça nous impacte, je pense, peu. Je pense que les citoyens le perçoivent peu. Pour autant, on ne peut pas se dire que c'est satisfaisant d'avoir un truc qui s'effondre. Le vivant s'effondre autour de nous et on fait comme si ça n'existait pas. Non, un jour ou l'autre, on va être touché. Les maladies comme le Covid ont peut-être été un révélateur du dysfonctionnement du système vivant. Donc c'est toutes ces questions et sûrement d'autres encore qu'il va falloir gérer pour les élus communaux et de la métropole. Donc il y a un vaste défi pour eux, effectivement.
Merci Jacques Leletti. Je le rappelle, vous êtes chargé de mission pour la Maison de la Consommation et de l'Environnement à Rennes.
Merci.
Merci à Jacques Leletti d'avoir répondu aux questions de Manon au micro de 3 en 1 et merci aux Rennais et aux Rennaises qui ont participé au micro-trottoir. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi à 12h15 ou en podcast sur le site canalb.fr. Bon après-midi.